Livre 5, La main du mort. Chapitre 1er. Dorothée sortait rarement sans son mari, parfois seulement, comme à toute femme de sa condition, lorsqu'elle habite à 3 milles d'une ville, il lui arrivait de se rendre seule en voiture à Middlemarch pour des emplettes ou pour des œuvres de charité. 2 jours après la scène de l'allée des Ifs, elle résolut de profiter d'une de ces occasions pour aller trouver Lydgate et lui demander si son mari avait réellement éprouvé quelques symptômes alarmants qu'il lui cachait, et s'il avait insisté pour connaître la vérité sur son état. Elle se sentait presque coupable de chercher des informations auprès d'un autre que son mari lui-même, mais la crainte de n'en pas obtenir de lui, la crainte d'une ignorance qui pourrait la rendre dure et injuste, triompha de ses scrupules. Elle était sûre, en tout cas, qu'il s'était produit une certaine crise dans l'esprit de son mari. Dès le lendemain, il avait adopté une méthode nouvelle dans le classement de ses notes, et il l'avait associée, d'une façon inusitée, à l'exécution de son plan. La pauvre Dorothée avait à faire provision de patience. Il était à peu près 4 heures lorsque sa voiture s'arrêta devant la maison de Lydgate, Lowickgate, et dans sa crainte soudaine de ne pas le rencontrer, elle regrettait de ne pas lui avoir écrit d'avance. Et en effet, il n'était pas chez lui. Mrs. Lydgate est-elle chez elle ? Demanda Dorothée, qui ne se souvenait pas d'avoir encore vu Rosemond, mais se rappelait maintenant les circonstances de son mariage. Oui, Mrs. Lydgate était à la maison. Je vais entrer lui parler un instant, si elle veut bien le permettre. Voulez-vous lui demander si elle peut me recevoir ? Recevoir Mrs. Casaubon pour quelques minutes. Quand la domestique se fut éloignée pour s'acquitter du message, Dorothée put entendre de la musique dont les sons lui arrivaient par une fenêtre ouverte, le chant d'une voix d'homme, puis un piano éclatant en une suite de traits. Mais les roulades cessèrent subitement, et la domestique revint lui annoncer que Mrs. Lydgate serait heureuse de recevoir Mrs. Casaubon. Lorsque la porte du salon s'ouvrit, l'entrée de Dorothée produisit une sorte de contraste qui n'était pas rare dans la vie de province, alors que les habitudes des rangs différents de la société se confondaient moins qu'aujourd'hui. Que ceux qui le savent nous disent exactement quelle étoffe portait Dorothée, dans ces jours d'automne encore chauds, quel était ce léger tissu de laine blanche, doux au toucher et doux à l'œil. Sa robe paraissait toujours fraîche, comme si elle la mettait pour la première fois, et répandait comme un doux parfum de haie. Elle était toujours en forme de pelisse, avec de longues manches pendantes, absolument passé de mode. Ses mouvements et son port de tête étaient pleins de grâce et de dignité, et autour de ce visage, de ses cheveux simplement séparés, au-dessus de ses yeux candides, le grand chapeau cabriolet auquel étaient condamnées les femmes de l'époque ne paraissait pas une coiffure plus extraordinaire que le croissant d'or que nous appelons une auréole. Toujours est-il que pour les 2 personnes présentes, il n'était pas d'héroïne dramatique dont l'entrée eût pu être attendue avec plus d'intérêt que celle de Mrs. Casaubon. Elle était, pour Rosemonde, une de ces divinités du comté qui ne frayait pas avec le commun des mortels de Middlemarch et dont les moindres particularités, dans les manières et l'extérieur, étaient pour elle un digne objet d'étude. Rosemonde n'était pas non plus sans éprouver une certaine satisfaction que Mrs. Casaubon eût occasion de l'étudier elle-même. À quoi bon, en effet, être charmante si les meilleurs juges ne vous voient pas? Et depuis que Rosemonde avait été chez Sir Godwin Lydgate l'objet des compliments les plus flatteurs, elle était tout à fait sûre de l'impression qu'elle devait produire sur les gens bien nés. Dorothée lui tendit la main avec son affabilité simple et naturelle et regarda avec admiration la ravissante jeune femme de Lydgate, ayant bien conscience sans doute de la présence d'un gentleman debout à quelque distance, mais ne le voyant que comme une forme vague en habit d'homme, dans une perspective éloignée. Ce gentleman était trop occupé de la présence de l'une des 2 femmes pour réfléchir au contraste qu'elle formait, contraste frappant pour l'œil d'un observateur indifférent. Elles étaient grandes toutes 2, leurs yeux étaient au même niveau. Mais représentez-vous cette blonde et juvénile beauté de Rosemonde, avec sa merveilleuse couronne de cheveux pâles, avec sa robe bleu clair d'une perfection de forme et de coupe à faire pâmer toutes les couturières, un grand col brodé dont le prix valait la peine d'être cité, ses petites mains couvertes de bagues, et cette réserve de manières qui ne s'ignore pas et qui remplace à grands frais la simplicité. Je vous remercie beaucoup de me permettre de vous interrompre, dit aussitôt Dorothée. Je suis très désireuse de voir M. Lydgate avant de rentrer, et j'espérais que vous pourriez peut-être me dire où je le trouverai, ou même me permettre de l'attendre ici, s'il ne doit pas tarder. Il est au nouvel hôpital, dit Rosemonde. Je ne sais pas au juste quand il rentrera, mais je puis le faire chercher. Voulez-vous me permettre d'aller le chercher? Demanda Will Ladislaw en s'avançant. Il avait déjà pris son chapeau avant l'entrée de Dorothée. Elle rougit de surprise, mais lui tendit la main avec un sourire de plaisir auquel on ne pouvait se méprendre, en disant « Je ne savais pas que ce fût vous. Je ne pensais pas du tout vous trouver ici. » « Irai-je à l'hôpital prévenir M. Lydgate que vous désirez lui parler ?» répéta Will. « Ce serait plutôt fait de lui envoyer la voiture, » dit Dorothée. « Voulez-vous être assez bon pour en donner l'ordre au cocher ?» Will se dirigeait vers la porte quand Dorothée, dont l'esprit venait en un instant de repasser par un enchaînement de souvenirs, se retourna brusquement. « J'irai moi-même, » dit-elle. « Je vous remercie. Je désire ne pas perdre de temps avant de rentrer. » « Je vais aller à l'hôpital et j'y verrai M. Lydgate. Vous m'excuserez, Mrs. Lydgate, je vous suis très obligé. » Son esprit était évidemment sous l'empire de quelques soudaines pensées, et elle quitta la chambre, ayant à peine conscience de ce qui l'entourait, s'apercevant à peine que Will lui avait ouvert la porte et offert le bras pour l'accompagner jusqu'à la voiture. Elle prit ce bras sans rien dire. Will, péniblement contrarié, ne trouva de son côté rien à dire non plus. Il l'aida silencieusement à monter en voiture, ils se dirent adieu, et Dorothée s'éloigna. Durant un trajet de 5 minutes, elle eut le temps de se livrer à des réflexions toutes nouvelles pour elle. Sa résolution de se retirer, son empressement à quitter la chambre, lui était venue de l'idée soudaine qu'il y aurait quelque fausseté de sa part à consentir à un nouvel entretien avec Will, qu'elle ne pourrait pas révéler à son mari. Il y avait déjà assez de dissimulation dans le fait d'aller trouver Lydgate. C'était bien là, sans aucun doute, la seule pensée dont elle eut conscience. Mais elle avait cédé aussi à un vague sentiment de malaise. Les accents de cette voix d'homme et du piano qui l'accompagnait, auxquels elle n'avait pas fait attention au moment même, seule maintenant dans sa voiture, elle les entendait résonner au plus profond de son âme, et elle arriva à faire avec quelque surprise la réflexion que Will Ladislaw passait son temps avec Mrs. Lydgate pendant l'absence de son mari. Là-dessus, elle ne put s'empêcher de se souvenir qu'il avait aussi passé quelques instants seul avec elle dans des circonstances semblables. Pourquoi donc y aurait-il alors dans ce fait quelque chose de choquant? Mais Will était parent de M. Casaubon. Elle était tenue de lui témoigner de la bienveillance. À certains indices, cependant, elle aurait peut-être dû comprendre que M. Casaubon n'aimait pas les visites de son cousin en son absence. « Peut-être me suis-je trompé en bien des choses, » se dit la pauvre Dorothée, tandis qu'elle essuyait rapidement les larmes qui roulaient le long de ses joues. Elle se sentait confusément malheureuse, et l'image de Will, qui jusqu'ici avait toujours été si pure pour elle, se trouva mystérieusement ternie. Mais la voiture s'arrêta à la grille de l'hôpital. Bientôt après, elle se promenait avec Lydgate autour des pelouses du jardin, et ses sentiments revenaient avec énergie au sujet qui lui avait fait chercher cette entrevue. Will Ladislaw, cependant, était mortifié, et il en savait assez clairement la raison. Les chances de rencontrer Dorothée étaient rares, et ici, pour la première fois, il venait de s'en présenter une dans laquelle il n'avait pas paru à son avantage. Ce n'était pas seulement, comme ça avait déjà été le cas, le sentiment qu'elle n'était pas exclusivement occupée de lui, mais surtout le sentiment qu'elle l'avait surpris dans des circonstances où il n'était pas, lui, exclusivement occupé d'elle. Au milieu des cercles de Middlemarch, qui ne faisaient pas partie de la vie de Dorothée, il se sentait rejeté à une nouvelle et plus grande distance d'elle. Mais ce n'était pas sa faute. Depuis qu'il avait pris un appartement en ville, il avait dû faire, sans aucun doute, de nombreuses connaissances. Sa position exigeait qu'il connût tout le monde et toutes choses. Personne, certainement, aux environs, ne méritait plus d'être connu que Lydgate. Et il se trouvait qu'il avait une femme musicienne, et bien digne aussi d'être recherchée. Telle était toute l'histoire de cette situation au milieu de laquelle Diane était descendue d'une façon trop inattendue devant son adorateur. Il y avait là quelque chose de mortifiant. Will sentait bien, au fond, que sans Dorothée, il ne se serait pas établi à Middlemarch. Et voilà maintenant que son établissement dans cette ville menaçait de le séparer d'elle par ses barrières de l'opinion, plus fatales à la persistance d'un mutuel intérêt que la distance entre Rome et l'Angleterre. Il était facile de défier les préjugés sur le rang et les professions, quand ils se présentaient sous la forme d'une lettre tyrannique de M. Casaubon. Mais les préjugés, comme les corps odorants, ont une double existence, à la fois solide et subtile. Solide comme les pyramides, subtil comme le vingtième écho d'un écho, ou le souvenir de Jacinthe qui auront une fois parfumé la nuit. Et Will était d'un tempérament fait pour sentir vivement les plus subtiles impressions. Un homme avec des perceptions plus grossières n'aurait pas senti, comme lui, que pour la première fois et bien indépendamment de lui, l'idée de quelque chose d'incorrect dans la parfaite aisance de leur rapport avait traversé l'esprit de Dorothée, et que leur silence, pendant qu'il la conduisait à la voiture, avait eu en soi quelque chose de glacé. Casaubon n'aurait-il pas, dans sa haine et dans sa jalousie, persuadé à Dorothée que Will était descendu au-dessous d'elle dans l'échelle sociale? Maudit soit Casaubon. Will rentra dans le salon et, prenant son chapeau, s'avança d'un air contrarié vers Mrs. Lydgate, qui s'était assise à sa table à ouvrage. C'est toujours une fatalité, lui dit-il, d'être interrompu quand on fait de la musique ou de la poésie. Pourrais-je revenir un autre jour pour achever au moins de vous rendre Lunghi dal caro bene? J'aurai plaisir et profit à vous entendre, repartit Rosemonde. Mais convenez que cette fois c'était une belle interruption. J'envie vraiment votre liaison avec Mrs. Casaubon. Est-elle très spirituelle? Elle en a l'air. En vérité, je n'y ai jamais songé, dit Will avec humeur. C'est tout juste la réponse de Tertius, la première fois que je lui ai demandé si elle était jolie. À quoi donc pensez-vous, vous autres hommes, lorsque vous vous trouvez avec Mrs. Casaubon? À elle-même, répliqua Will, qui n'était pas fâché de provoquer la charmante Mrs. Lydgate. Quand on est en présence d'une femme parfaite, on ne pense jamais à ses mérites. On a la conscience de sa présence, et c'est assez. Je serai jalouse lorsque Tertius ira à Lowick, dit Rosemonde en découvrant ses fossettes et parlant avec une grâce idéale. Quand il reviendra, je ne serai plus rien pour lui. Il ne semble pas que cet effet se soit produit jusqu'ici sur Lydgate. Mrs. Casaubon est trop différente des autres femmes pour qu'on puisse les lui comparer. Vous êtes, à ce que je vois, un fervent adorateur. Vous la voyez souvent, j'imagine. Non, fit Will presque avec humeur. En général, l'adoration est plutôt affaire de théorie que de pratique. Mais je suis en train pour le moment de la pratiquer avec excès. Il faut réellement que je m'arrache ici. Revenez un de ces soirs, voulez-vous? Monsieur Lydgate sera heureux d'entendre cette musique. Et moi, je n'en puis autant jouir quand il n'est pas là. Lorsque son mari fut rentré, Rosemonde lui dit, en se plaçant en face de lui et en tenant de ses deux mains le collet de son habit, « Monsieur Ladislav était ici, en train de faire de la musique avec moi, quand Mrs. Casaubon est entrée. Il a paru contrarié. Croyez-vous qu'il fût fâché qu'elle le vît dans notre maison? Notre situation est bien plus qu'égale à la sienne, quelle que soit d'ailleurs sa parenté avec les Casaubon. » Non, non. S'il a réellement été fâché, ce devait être pour une autre raison. Ladislav est une espèce de bohème. Il ne se soucie pas des différences entre le cuir et la prunelle. Musique à part, il n'est pas toujours très agréable. L'aimez-vous? Oui, je crois que c'est un brave garçon. C'est un mélange, une espèce de bric-à-brac, mais sympathique. Savez-vous, je crois qu'il adore Mrs. Casaubon. Pauvre diable, fit Lydgate en souriant et pinçant l'oreille de sa femme. Rosemonde s'apercevait qu'elle commençait à connaître beaucoup de choses du monde, surtout en découvrant ce qui, dans son temps de jeune fille, lui a ressemblé inconcevable en dehors des vieilles tragédies classiques, en découvrant que les femmes, même après le mariage, pouvaient faire des conquêtes et réduire les hommes à l'état d'esclaves. À cette époque, les jeunes demoiselles de province, même celles qui étaient élevées chez Mrs. Lemon, lisaient peu de littérature française plus moderne que Racine. Et les journaux ne jetaient pas encore leur éclatante lumière sur les scandales de la vie. La vanité, cependant, quand elle est libre de travailler tout le jour dans une tête de femme, peut aller loin en bâtissant sur les plus légères données, surtout sur une donnée telle que la possibilité de conquêtes indéfinies. Quel délice de faire des captifs du haut du trône du mariage, avec un mari comme prince consort à ses côtés, par le fait lui-même le premier des sujets, tandis que les esclaves, tout repos de leur vie perdu, lèvent des yeux à jamais sans espoir. Mais pour le quart d'heure, le roman de Rosemonde tournait principalement autour de son prince consort, et c'était assez pour elle de jouir de sa soumission assurée, lorsqu'il dit « pauvre diable ». Pourquoi cela ? Demanda-t-elle curieusement. Et que peut faire un homme quand il se met à adorer l'une de vous, sirène ? Il néglige son travail et tout va mal. En tout cas, ce n'est pas vous qui négligez votre travail. Vous êtes constamment à l'hôpital, ou à visiter des malades pauvres, ou à réfléchir à des querelles de médecins. Et puis, à la maison, vous ne faites que vous pencher sur votre microscope et sur vos fioles. Avouez que vous aimez toutes ces choses mieux que vous ne m'aimez moi-même. N'avez-vous pas assez d'ambition pour désirer que votre mari devienne quelque chose de mieux qu'un médecin de Middlemarch, dit Lydgate, appliquant ses mains sur les épaules de sa femme et la regardant avec une tendre gravité. Je vous ferai apprendre mes vers favoris d'un vieux poète. Pourquoi notre orgueil ferait-il tant d'efforts pour être et n'être plus? Quel bien comparable à celui-là, faire des choses dignes d'être écrites, en écrire de dignes d'être lues, et charmer le monde. Ce que je veux, Rosie, c'est de faire des choses dignes d'être écrites, et d'écrire moi-même ce que j'aurais fait. Il faut, mon ange, pour y arriver, qu'un homme travaille. Je souhaite naturellement que vous fassiez des découvertes. Personne plus que moi ne pourrait souhaiter de vous voir atteindre à une haute position un meilleur lieu. Vous ne direz pas que j'ai jamais essayé de vous empêcher de travailler, mais nous ne pouvons pas vivre comme des ermites. Vous ne m'en voulez pas, Tertius. Non, cher, non, je suis trop pleinement heureux. Et qu'est-ce que Mrs. Casaubon avait à vous dire? Elle voulait seulement me questionner sur la santé de son mari. Mais je crois qu'elle va se montrer d'une générosité magnifique pour notre nouvel hôpital. Je crois qu'elle nous donnera 200 livres par an. Chapitre 2. Lorsque Dorothée, en se promenant en compagnie de Lydgate autour des massifs de lauriers du nouvel hôpital, eut appris de lui qu'il n'y avait pas d'autre signe de changement dans l'état de M. Casaubon que son anxieux désir de connaître la vérité sur sa maladie, elle garda le silence pendant quelques instants, se demandant s'il y avait eu, de sa part, un mot ou un acte quelconque de nature à provoquer cette nouvelle inquiétude. Lydgate, ne voulant pas laisser passer une occasion de travailler à son projet favori, s'aventura à dire « Je ne sais pas si votre attention ou celle de M. Casaubon a été attirée par les besoins de notre nouvel hôpital. Les circonstances ont fait qu'il peut paraître un peu égoïste de ma part d'aborder moi-même le sujet. » Mais ce n'est pas ma faute. C'est parce que les autres médecins sont en train de soulever une lutte contre cette institution. Vous vous intéressez généralement, je crois, à ces questions, car je me rappelle que la première fois que j'ai eu le plaisir de vous voir à Tipton Grange, avant votre mariage, vous m'avez interrogé sur l'influence que pouvait avoir sur la santé des malheureux leur misérable logement. Oui, certainement, dit Dorothée en s'épanouissant. Je vous serai extrêmement reconnaissante Si vous voulez bien me dire comment je pourrais contribuer à améliorer un peu les choses. Toute œuvre de ce genre m'a été refusée depuis que je suis mariée. Je veux dire, ajouta-t-elle après un moment d'hésitation, que les gens de notre village vivent dans des conditions relativement confortables, et j'ai eu trop de préoccupations d'un autre côté pour m'en inquiéter plus à fond. Mais ici, dans un endroit comme Middlemarch, il doit y avoir beaucoup à faire. Il y a tout à faire, dit Lydgate avec une brusque énergie. Et cet hôpital est une création de première importance, due entièrement aux efforts de M. Bulstrode, et pour beaucoup aussi à son argent. Mais un homme seul ne peut tout faire dans un projet pareil. Il devait s'attendre à rencontrer de l'appui. Et maintenant, il y a lutte. Une lutte basse et mesquine, suscitée contre cette œuvre par certaines personnes de la ville qui veulent la faire échouer. « Quelles peuvent être leurs raisons ?» demanda Dorothée avec une naïve surprise. Plus que tout et avant tout, l'impopularité de M. Bulstrode. Il n'est pas de peine devant laquelle recule une moitié de la ville pour le simple plaisir de le contrarier. Dans ce stupide univers, la plupart des gens ne conçoivent pas l'utilité d'une chose si elle n'émane pas de leur parti. Je n'avais eu aucun rapport avec Bulstrode avant de venir ici. Je le juge impartialement et je vois qu'il a des idées. Qu'il a mis sur pied certaines choses que je pourrais faire tourner au profit du bien public. Si un certain nombre d'hommes instruits se mettaient à l'œuvre avec la conviction que leurs observations pourraient contribuer à réformer la doctrine et la pratique médicale, le progrès ne tarderait pas à se faire voir. Telle est mon opinion. J'ai trouvé que refuser de travailler avec M. Bulstrode, ce serait tourner le dos à une occasion d'étendre l'utilité de ma profession. « Je suis tout à fait d'accord avec vous, » dit Dorothée, aussitôt séduite par l'exposé que Lydgate venait de faire de la situation. « Mais qu'a-t-on contre M. Bulstrode ? Je sais que mon oncle est en bon terme avec lui. On n'aime pas ses façons religieuses. » « C'est une raison de plus pour dédaigner une telle opposition, » dit Dorothée, éclairant les petites affaires de Middlemarch à la lumière des grandes persécutions. Pour ne rien laisser de côté, je vous dirai qu'il y a encore d'autres objections contre lui. Il est impérieux, peu sociable. Les commerçants avec lesquels il est en rapport d'intérêt allèguent enfin des plaintes particulières auxquelles je n'entends rien. Mais qu'est-ce que cela a à faire avec la question de savoir si ce ne serait pas une belle œuvre que d'établir ici un hôpital supérieur à tout ce que possède le comté? Quant au motif immédiat de l'opposition, c'est que Bulstrode a remis la direction médicale entre mes mains. J'en suis heureux, sans aucun doute. Cela me donne l'occasion d'accomplir quelques travaux utiles. Et je me sens tenu de justifier le choix qu'il a fait de moi. Mais la conséquence, c'est que tous les membres du corps médical de Middlemarch se sont attaqués avec dents et ongles à l'hôpital. Et non seulement refusent leur concours, mais s'efforcent de noircir toute l'affaire et d'empêcher les souscriptions. « Que c'est petit !» s'écria Dorothée avec indignation. « Il faut s'attendre à lutter pour se frayer un chemin, je le sais bien. On ne peut guère rien faire sans cela. Et l'ignorance des gens d'ici est prodigieuse. Tout ce que je puis prétendre avoir fait, c'est d'avoir mis à profit certaines occasions qui n'étaient pas à la portée de tout le monde. Mais quel moyen d'effacer cette tare blessante, d'être jeune, nouveau venu, et d'en savoir par hasard un peu plus long que les anciens d'ici ? Et pourtant, si je me crois capable d'établir une meilleure méthode de traitement, si je me crois en mesure de poursuivre certaines recherches qui seraient un bienfait durable pour la pratique médicale, je serais un misérable lâche de me laisser arrêter par aucune considération de tranquillité personnelle. Et la voie que je dois suivre est d'autant plus claire qu'il n'y a pas de question pécuniaire en jeu qui pourrait jeter sur ma persévérance une lumière équivoque. « Je suis contente que vous m'ayez dit cela, monsieur Lydgate, » répondit Dorothée cordialement. « Je suis sûr que je pourrais vous aider un peu. J'ai quelque argent et je ne sais qu'en faire. C'est une pensée qui souvent me tourmente. Je pourrais certainement économiser 200 livres par an pour un but élevé comme celui-là. Êtes-vous heureux de connaître des choses que vous sentez devoir être sûrement bienfaisantes ? » Je voudrais tant pouvoir me réveiller tous les matins avec cette conviction. Il semble qu'il y a tant d'efforts dépensés dont on peut à peine voir l'utilité. » Il y avait une inflexion mélancolique dans la voix de Dorothée lorsqu'elle prononça ces derniers mots. Mais elle ajouta aussitôt, plus gaiement, « Venez nous voir à Loïc, voulez-vous, et de parler de cela plus au long. J'en dirai un mot à M. Casaubon. Il faut maintenant que je m'en retourne au plus vite. » Elle parla en effet de la chose le même soir à son mari, en disant qu'elle aimerait à souscrire pour 200 livres par an. Elle en touchait annuellement 700, revenus de sa fortune personnelle, remise entre ses mains au moment de son mariage. M. Casaubon ne fit d'autre objection qu'une remarque en passant sur ce que la somme était peut-être disproportionnée au regard d'autres bonnes œuvres. Et voyant Dorothée, dans son ignorance, écarter cette réflexion, il donna son assentiment. Il ne s'inquiétait pas lui-même des questions de dépenses et n'éprouvait nulle répugnance à donner. S'il ressentait jamais vivement une question d'argent, c'était toujours au travers d'une autre passion bien étrangère à l'amour de la propriété matérielle. Dorothée lui dit qu'elle avait vu Lydgate et elle lui rendit compte de la conversation qu'elle avait eue avec lui au sujet de l'hôpital. M. Casaubon ne la questionna pas davantage, mais il demeura convaincu qu'elle avait voulu savoir ce qui s'était passé entre Lydgate et lui. « Elle sait que je sais », disait la voix intérieure, qui ne lui laissait pas un instant de répit. Mais cette nouvelle conviction tacite ne fit qu'éloigner davantage encore toute confiance entre eux. Il se défiait de son affection, et quelle solitude nous isole plus que la défiance !